c'est un événement magnifique. À chaque fois qu'on est sur cette thématique-là, qu'on appelle le roi revient. Depuis le début du mois, on parle là-dessus, sur le roi revient. On croit vraiment que nous sommes dans des temps particuliers où le Seigneur est à la porte. Il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent partout à travers la planète où on voit que c'est des temps précieux, des temps critiques où l'Église doit se préparer à être la plus belle épouse. Vous savez, il vient pour chercher une épouse. Savez-vous ça? OK. Savez-vous c'est qui l'épouse? OK. Parce qu'il se peut que certains vont se marier bientôt, ils ne sont même pas au courant qu'ils se marient bientôt. Alors, j'aimerais vous parler de cet événement magnifique qui s'appelle les noces de l'agneau. Combien ici vous avez entendu parler des noces de l'agneau? Yes! Les noces de l'agneau. Alléluia! Ça va être un événement magnifique. Et ce que je sais des noces de l'agneau, c'est que ça va être un mariage sans aucune limite de budget. Et c'est vrai. Savez-vous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Oui. À quoi peut ressembler son mariage si l'or et l'argent lui appartiennent? Son mariage va être sans aucune limite de budget. Oh, le party va poigner là, ça va être incroyable. Alors, j'ai trouvé, en faisant une recherche, j'ai trouvé une liste de les cinq mariages les plus chers au monde. Les gens là, il y en a qui dépensent beaucoup d'argent là pour les mariages. Les cinq mariages les plus chers au monde. Alors, le top 5 des cinq mariages. En cinquième position, c'est le mariage du prince Felipe avec Laetitia Ortiz en 2004. La facture de leur mariage s'élevait à 29 millions de dollars. Pensez-vous que c'était un beau mariage? 29 millions de dollars, c'était leur budget pour leur mariage. Ça, c'est la cinquième position. En quatrième position, c'est le mariage du prince William avec Kate. Ça, c'est en Angleterre. Ça s'est passé en 2011 et la facture s'élevait à combien? Figurez-vous bien, 34 millions de dollars pour les noces du prince William avec Kate. En troisième position, eh bien, c'est le mariage de Vanisha Mittal avec Amit Bhatia. On raconte qu'ils ont acheté des millions et des millions de fleurs. Ils ont payé 45 cuisiniers pour faire les repas. Ils ont loué 12 avions Boeing pour faire le voyage de l'Inde vers la France. 12 avions. Ils ont emmené toutes les invités et tout ça. La facture totale s'est élevée à combien? 60 millions de dollars. Combien, si vous pensez que ça commence à être cher? 60 millions de dollars. Waouh! Ça, c'est en troisième position. En deuxième position du top 5 des mariages les plus chers, eh bien, c'est le mariage du prince Charles avec la princesse Diana. Bon, elle est décédée aujourd'hui. Leur mariage était au départ évalué à 48 millions de dollars. Maintenant, avec l'inflation, ils ont réévalué à 110 millions de dollars pour leur mariage. C'était quelque chose. Maintenant, la première position, le mariage, au top 1 du mariage le plus cher au monde. Eh bien, ça se trouve à être le mariage d'un homme russe en URSS. Son nom à lui, c'est Saïd Goutierev avec Khadija. Ça s'est passé en 2016. Le mariage a coûté, tenez-vous bien, 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Ils ont invité des stars, des grandes célébrités comme Jennifer Lopez qui est venue pour faire un concert en privé. Ça a coûté cher. Fait que là, c'était un gros mariage. Mais la chose qui a coûté le plus cher, la chose qui a dépensé le budget de ce mariage-là, savez-vous c'était quoi? C'était la robe de la mariée. La robe de la mariée. Il raconte que la robe de la mariée pesait jusqu'à 11 kilos incrustés de cristal. La robe de la mariée. Et ce jour-là, là, elle était la plus belle au monde. J'ai jamais vu. 1 milliard de dollars pour un mariage. C'est le mariage le plus cher au monde. Mon point pour vous est le suivant. À quoi peuvent ressembler les noces de l'agneau? Si les mariages du monde peuvent coûter aussi cher, aussi somptueux, aussi luxueux, pensez-vous que Jésus va faire un mariage cheap? À quoi peuvent ressembler les noces de l'agneau? Alors, mon message ce matin a pour titre « Prépare-toi pour les noces ». Préparons-nous pour les noces les plus magnifiques de l'histoire de la planète. Préparons-nous pour ce mariage qui va être un mariage mémorable. Prépare-toi pour les noces. Ça te concerne. Regarde ton voisin, dis-lui, ça te concerne, ça te concerne. Ça te concerne. Nous allons bientôt faire partie du mariage extraordinaire de toute l'histoire. Moi, je suis content. Alors, j'aimerais vous lire deux textes dans la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Apocalypse 19, le verset 7. Ça dit ceci, Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. J'aimerais lire un deuxième verset, c'est le verset 9, plus bas. Le verset 9 va dire ceci, « Heureux ceux qui sont invités aux noces, plutôt au festin des noces de l'agneau. » Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Combien ici vous avez reçu la carte d'invitation? Waouh! Et à Shawinigan, les gens sont spirituels. C'est bon ça! C'est très très bien. La Bible que vous avez en main, c'est une carte d'invitation. Tu peux trouver là-dedans toutes les indications sur le mariage, comment aller dans ce mariage-là. Alors, ce que je vais faire avec vous ce matin, j'aimerais relever deux observations sur les noces de l'agneau. Et ça va être tout mon message ce matin. Deux observations. Par la suite, on pourra tirer des applications de ces deux observations-là. La première observation que j'aimerais relever sur les noces de l'agneau, c'est le délai de préparation. Le délai de préparation des noces de l'agneau. Combien ici, dites-moi, combien de temps ça prend pour faire la plus belle cérémonie au monde? Combien de temps ça fait pour avoir une belle cérémonie de mariage? Combien de temps de préparation? Un an? Moi, ça m'a pris un an aussi pour mon mariage, c'est bien. Et pour les autres? Êtes-vous d'accord? Combien si vous croyez que ça peut prendre plus de un an? Ouais, ça peut prendre plus de un an, oui. Pour avoir une belle cérémonie de mariage. Le point, c'est que pour avoir une belle cérémonie de mariage, ça prend quand même un minimum de préparation, right? Moi, je connais un couple, là, des amis à moi, à Montréal. Ils se sont rencontrés un jour, puis deux semaines après, ils se sont mariés. Ça a été rapide, en Titi? Deux semaines après, ils se sont mariés, puis ils ont eu un beau mariage quand même. T'sais. Pour eux autres, là, ce n'était pas nécessaire de faire tout le flan. Ils se sont mariés, puis de façon intime, ça a bien été. Et aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ensemble encore. Comme quoi, ce n'est pas la qualité de la cérémonie qui fait la longévité du mariage. Mais ça prend quand même un minimum de préparation si on veut avoir une belle cérémonie de mariage. Savez-vous, ça fait combien de temps que les anges se préparent pour les noces de l'agneau? Ouais, autour de ça, hein, quelqu'un l'a dit, là. Ça fait un petit bout. Ça veut dire que ça va être bon. Moi, je crois qu'ils ont pensé à tous les détails. Ils ont eu en masse le temps de le faire. Ils ont pensé à toutes les coussins. Puis toute la... Et je crois aujourd'hui que toute la logistique des noces de l'agneau est prête. Je vais répéter ça. Je crois que les noces de l'agneau sont prêtes. Je crois que la logistique, toute la logistique a été est toute complétée. Je crois que tout est prêt pour les noces de l'agneau. Là, je vois les gens qui me voient et disent, sur quoi tu te bases, toi, là, pour dire ça, là? Mais je me base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu le dit. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 22, le verset 4. Matthieu 22, 4, ça dit ceci. Le Seigneur qui parle dans la parabole, il dit, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Matthieu 22, verset 4. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez alors. Venez aux noces. Pourquoi? Parce que tout est prêt. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que les noces de l'agneau, c'est prêt. La seule affaire, c'est que les invités ne sont pas tous prêts. Les invités ne sont pas tous intéressés, mettons. Plusieurs ont reçu l'invitation, mais ils ne sont pas intéressés. Alors que les noces sont prêtes, les invités ne sont pas tous intéressés. Là, vous allez me dire, mais sur quoi tu te bases pour dire que les invités ne sont pas tous intéressés? La parole me le dit. On peut lire dans la parole. Il y a un verset qu'on peut lire au verset 3, toujours dans Matthieu 22. Au verset 3, ça va dire ceci. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités. Tu sais, la gang à Shawinigan, là, qui sont invités, là. Il appela ses serviteurs pour aller chercher. Comment on appelle les gens de Shawinigan? De Shawinigan. Voilà. Donc, il appela les serviteurs pour aller chercher les Shawiniganais invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Alors, ce n'est pas tous les invités qui sont intéressés à venir aux noces. Alors que les noces sont prêtes. On le voit. Il y a du monde qui sont pris avec toutes sortes de constats dans la vie, toutes sortes de priorités, et ils ignorent l'invitation aux noces. Et la bonne nouvelle, c'est que l'invitation aux noces est encore valide aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, qui n'a pas encore reconnu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, aujourd'hui, tu peux décider d'ouvrir ton cœur, de recevoir le Sauveur et de participer aux noces de l'agneau. La porte est encore ouverte aujourd'hui pour donner notre cœur à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ce que le Seigneur fait, regardez au verset 9, le verset plus tard, le verset 9, la Bible va dire ceci. Alors, étant donné qu'il y a des invités qui ne sont pas intéressés, allez donc en chercher d'autres. Au verset 9, ça dit, allez au croisement des chemins et invitez au repas de noces tous les gens que vous rencontrerez. Tous les gens que vous rencontrerez, invitez-les au repas afin qu'ils puissent venir. Tous les gens que vous rencontrerez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sont invités aux noces même des gens qui ont un cœur méchant. Parce que des fois, on juge le monde. Hein? On se dit, oh, lui, là, c'est sûr qu'il n'ira pas au ciel. Le Seigneur veut les inviter quand même. Invitez tous les gens que vous rencontrerez sans jugement. Le Seigneur les appelle aux noces. Des gens que nous, on pense qu'ils sont trop, sont pas qualifiés. Mais Jésus les qualifie. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des gens? Des fois, on n'a pas l'air trop sûr. Ça vous arrive-tu de rencontrer du monde? Le Seigneur dit, invitez-les. Invitez tous les gens que vous rencontrez. Même ton boss au travail que tu n'aimes pas la face. Même dans ta famille, la personne que tu considères qui est comme un papier sablé, qui te donne la misère des fois. Invitez tous les gens que vous rencontrerez, qui sont invités aux noces, qui sont qualifiés par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, il y a une chose que j'aimerais souligner ici. Si tout le monde est invité aux noces, il n'y a rien qu'une condition que le Seigneur demande. Une affaire, une seule. Le Seigneur va dire ceci, qu'ils viennent aux noces, mais ils doivent porter un vêtement particulier. Donc, de ne pas venir aux noces avec n'importe quel vêtement qu'on veut, il y a un vêtement particulier qu'on doit porter, ça s'appelle un vêtement de noces. On doit porter un vêtement de noces, c'est la seule affaire que le Seigneur demande afin de venir aux noces. Et pour comprendre ce vêtement-là, on peut le voir dans Galates chapitre 3, le verset 27. Galates 3, verset 27, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit ceci, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voici le vêtement de noces. Pour participer aux noces, nous devons porter Christ. Parce que si vous lisez dans la parabole de Matthieu 22, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui est venu aux noces qui n'avait pas un vêtement de noces. Cette personne-là a été mis dehors. Alors le vêtement qu'on a besoin de porter, c'est Christ lui-même qu'on doit porter pour venir aux noces. La parole de Dieu va dire dans Romains 13, verset 14. Romains 13, 14, ça dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » C'est lui qu'on doit porter. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller magasiner. C'est quoi le magasin le plus cher en vêtements ici? Comment? Arnois? Tu n'as pas besoin d'aller magasiner chez Arnois pour avoir ton vêtement de noces. Tu peux l'avoir ici et aujourd'hui. Il s'agit juste de dire, Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois dans ma vie et tu vas avoir le vêtement de noces que Dieu a préparé pour participer aux noces. Savez-vous pourquoi? Parce que sinon, si tout le monde doit apporter son vêtement aux noces, là, on n'en finira plus. Ça va être la cacophonie parce qu'il y en a qui vont commencer à dire, as-tu vu? Mon vêtement de noces est meilleur que le tien. Moi, j'ai fait plus des œuvres que toi. Moi, je suis plus digne que toi. Tout le monde va pouvoir commencer à se comparer, qu'on aime ça se comparer des fois. Hein? Non, pas ici à Shawinigan, OK? Mais le Seigneur a tranché le problème. Il a dit, non, personne n'emmène des vêtements comme il veut. Tout le monde porte le même vêtement parce qu'on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. On porte le vêtement de noces qui s'appelle Jésus-Christ lui-même. Et là, il n'y a pas de comparaison que moi, je suis meilleur que toi ou que moi, je suis moins bon que toi. Il n'y a pas de comparaison. Maintenant, j'aimerais souligner la deuxième observation sur les noces de l'agneau. Deuxième observation, savez-vous c'est quoi? C'est la préparation de l'épouse. C'est là que les vraies affaires se passent. Au départ, j'ai parlé des préparatifs au niveau logistique et on voit que le mariage est prêt. Et deuxièmement, je souligne la préparation de l'épouse elle-même. C'est là que se passe le plus gros de la patente. Comment une épouse se prépare-t-elle pour des noces royales? On s'entend-tu que les noces de l'agneau, c'est une noce royale? Alors, savez-vous comment une épouse doit-elle se préparer pour les noces royales? On ne se prépare pas dans un mariage ordinaire comme dans un mariage royal. C'est deux affaires complètement différentes. C'est deux procédures différentes, c'est deux processus complètement différents. Comment une épouse doit-elle se préparer dans le contexte de noces royales? Avez-vous une idée? Parce que, savez-vous, c'est important, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne. Pourquoi c'est important? Parce que on remarque que beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme bon leur semble, à leur manière. Alors qu'il y a une façon de se préparer pour les noces royales. Il y a un code pour se préparer pour les noces royales. On ne se prépare pas pour des noces royales comme dans un mariage ordinaire. Êtes-vous avec moi? Alors, j'aimerais prendre le temps de voir avec vous comment est-ce que l'Église doit-elle se préparer pour les noces royales? Comment est-ce que chacun de nous, devons-nous nous préparer pour les noces royales? Ce que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, dans notre fonction de pasteur, on fait beaucoup de mariages et célébrer beaucoup de mariages, assister à beaucoup de cérémonies. J'ai remarqué une affaire, c'est que dans les noces, surtout dans les noces royales, toute l'attention n'est pas bien portée sur le marié. Tout le monde attend l'entrée de la mariée. Tout le monde observe la mariée. Quelle sorte de robe qu'elle a portée? C'est quoi le maquillage qu'elle a mis? C'est quoi le soulier qu'elle a porté? Est-ce qu'elle a eu un bijou sur elle? Toute l'attention est surtout portée sur la mariée. Voilà pourquoi, en tant qu'Église, on doit se préparer. Parce que Jésus ne veut pas un mariage cheap. Sommes-nous là? Alors, maintenant, regardons comment ça se passe dans le cadre d'un mariage royal. Il y a une chose qu'on sait, c'est que dans le cadre d'un mariage royal, La femme ne se prépare pas par ses propres moyens. Là, suivez-moi bien. Là. L'épouse ne se prépare pas par ses propres efforts dans un mariage royal. Le palais royal va toujours mandater un expert pour préparer l'épouse. Il y a quelqu'un qui est un expert en la matière, quelqu'un qui connaît bien le palais, qui connaît bien les goûts du palais, qui connaît bien les standards du palais. Cette personne-là va être mandatée pour préparer l'épouse, du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça se passe de même. Vous allez examiner les mariages royaux comme en Angleterre, vous allez voir que la princesse qui se marie, elle ne se prépare pas de ses propres moyens, là. Quelqu'un la prépare. Et la future mariée, la future princesse, doit se conformer au protocole du palais royal. Alors, la future mariée ne se bâtit pas son propre protocole. Que moi, je veux que ça se passe à ma façon. Ça marche pas. Il va falloir se conformer au protocole du palais. C'est de même. Pourquoi? Parce qu'il en va de l'honneur du palais. Parce qu'il y aura des invités. Il faut que ça soit à la hauteur, justement, du palais. Il y a des standards qu'il faut respecter. L'expert est mandaté pour ça. Est-ce que vous me voyez venir? C'est tellement bon. Moi, j'aime ça. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, ok? On va lire, on va prendre l'exemple, une noce royale, la noce d'Esther. Vous connaissez Esther dans la Bible, right? Ok, on va lire, regardez ce qui se passe avec Esther au chapitre 2. Esther, chapitre 2, la deuxième partie du verset 8. Ça dit ceci, suivez bien. Esther fut emmenée au palais royal et confié aux soins de Égée. Dans d'autres versions, ça dit Égée. Okay? Moi, j'aime mieux dire le mot Égée. Ça dit Égée dans d'autres versions. Esther fut emmenée au palais royal et confiée aux soins de Égée, le responsable du harem. Esther ne devait pas se préparer par elle-même. Ça ne fonctionnait pas dans l'école du palais. Il fallait qu'elle suive le protocole. Il fallait qu'elle suive le protocole. Alors, on voit ici qu'il y avait un expert. Il y avait un expert en la matière qui avait reçu ce mandat-là. D'après vous, c'est qui l'expert que le Seigneur a établi sur nous? Hey, vous êtes tellement mature ici, ça n'a pas de bon sens. Pasteur, tu n'as même pas besoin de prêcher ici. Là. C'est ça. Maintenant, je ne sais pas si nous réalisons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit. Vraiment. Et ce n'est pas un luxe, là. C'est de même. C'est ça le protocole. On a besoin de lui. Afin qu'on soit préparé à la manière du palais royal, afin qu'on soit préparé selon les standards du royaume des cieux, celui qui a été mandaté, c'est le Saint-Esprit. Alors, si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est là pour notre bien, on est dans la chenoute. Ton mariage, là, ça va faire dur. Si on ne comprend pas que le Saint-Esprit est là pour nous aider, on l'appelle le paraclet, celui qui est envoyé à côté de nous pour nous aider, pour nous rendre dans les standards du royaume, pour nous rendre à l'image de du mariage que le Père veut pour nous. Si on ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit, quelle sorte de mariage qu'on va avoir tantôt? Allô? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, c'est intéressant de voir ce qui se passe, ok? Là, Esther est confiée au soin de Égée. Pareil comme l'Église, on est confié aux soins du Saint-Esprit pour nous aider, pour nous préparer. C'est bon de voir comment Égée a aidé Esther. Comment est-ce que Égée a préparé Esther pour les noces royales? Parce que ça va nous donner une image de comment le Saint-Esprit doit nous préparer aussi. Parce que c'est un protocole. C'est un protocole. De quelle manière Égée a préparé Esther? Regardez au verset 9, toujours dans Esther 2. Là. Au verset 9, ça dit ceci. Égée lui a aussitôt donné tout ce qui était nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire, dès l'instant que Esther a accepté le fait que, OK, ce mariage-là, je ne le préparerai pas par mes propres moyens. Je ne le préparerai pas par mes propres efforts. Il faut que j'accepte d'avoir été confié aux soins de quelqu'un d'autre. Même si moi, j'aurais eu mes propres goûts, tu sais, j'aurais voulu dans mon mariage, tu sais, qu'il y ait des pigeons, puis des souris. J'aurais voulu qu'il y ait des coccinelles, puis des abeilles, mais ça ne sera pas le cas. Fait qu'on me confie aux soins de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui m'impose un protocole de mariage. Tu sais, la nature humaine, on n'aime pas ça trop, hein, qu'on nous dise quoi faire. Comprenez-vous? Des fois, on se rébelle contre les autorités de l'Église. Des fois, on est en réaction parce qu'on veut que ça soit fait à notre manière. Alors que le Saint-Esprit, le Seigneur, a un protocole. Fait que dès l'instant que Esther a compris, OK, je vais accepter de me soumettre au protocole du palais royal. Et je vais laisser Égée me dire comment faire, quoi faire. Je vais accepter ça. Dès l'instant que Esther a accepté cela, parce qu'elle aurait pu même fermer son cœur, puis elle aurait pu claquer la porte, là. Mais la minute qu'elle a accepté ça, le texte le dit, on vient de le lire au verset 9, Égée a aussitôt ordonné, il a aussitôt donné, mis à la disposition d'Esther, tout ce qui était nécessaire. Maï, tout ce qui était nécessaire pour sa beauté et pour son entretien. Et dans une autre version, ça dit ceci, Égée lui a fourni, je suis un peu mêlé dans mes affaires là, ok, Égée lui a donné tout ce qui était nécessaire, là je ne sais pas où ce que j'ai mis, j'avais une phrase tellement belle là, mais là je l'ai perdue, ok, c'est pas grave. Donc, on lui a donné tout le nécessaire, tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit belle. Est-ce que vous me voyez venir? Non? Voulez-vous un dessin? J'aimerais dire ceci. Lorsque nous ouvrons notre cœur et qu'on accepte de ne plus faire les choses par nous-mêmes et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, lorsqu'on fait ce choix, donc c'est par la foi qu'on le fait. Et c'est comme si on meurt à nous-mêmes, comprenez-vous? Je meurs à moi-même. Okay? Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, comme la parole va le dire. Dès l'instant qu'on fait ça, on renonce à nous-mêmes, on se dit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. À ce moment-là, tu as tout ce qui est nécessaire. Tout. Le Saint-Esprit met à ta disposition tout. Là, vous allez me dire, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a tel frère, telle sœur qui coule toujours dans l'onction? On dirait que Dieu agit beaucoup avec lui, pas avec moi. Mais peut-être qu'il y a un pas que tu as besoin de faire, c'est de t'abandonner au Saint-Esprit. Parce que là, tu vas trouver toutes les ressources du royaume des cieux. Tu vas trouver toute l'onction qui est nécessaire pour que tu puisses être un serviteur de Dieu puissant. Tout se passe, c'est lorsqu'on s'abandonne au Saint-Esprit. Au lieu de garder le contrôle, voyez-vous? Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3, ça dit ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tout ce dont on a besoin avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Pas par nos propres efforts, mais avec le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai besoin de savoir comment il travaille, le Saint-Esprit, que je collabore avec lui. Pourquoi? Parce que c'est pour mon bien. C'est pour mon propre bien. Colossiens 2:10, ça dit ceci, « Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. »
C'est par lui. Ce n'est pas par nos propres efforts, comprenez-vous. C'est vraiment par lui. Et c'est lui qui nous prépare, justement, pour les noces. Je pourrais lire un autre verset, 1 Corinthiens 1.5. 1 Corinthiens 1.5 va dire ceci. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. En lui, c'est en lui que ça se passe. De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Comprenez-vous que le Saint-Esprit est ici pour notre bien? C'est pour nous préparer aux noces de l'agneau. Et ça, c'est le protocole pour des noces royales. C'est le protocole à suivre. Alors, nous avons tout ce qu'il faut. Dans le fond, là, ça revient à dire ceci. Nous avons tout ce qu'il faut pour être une épouse belle, ravissante, rayonnante pour les noces de l'agneau. On a tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour relever la tête. Au lieu de marcher toujours dans le découragement, comprenez-vous? On a tout ce qu'il faut pour marcher la tête haute. Et ce n'est pas de la prétention ou de la vaine gloriole. C'est parce qu'on a compris. Comprenez-vous? On a compris comment ça fonctionne. On a compris que c'est par le Saint-Esprit que ça fonctionne. On a compris qu'il nous prépare pour des noces royales. On peut lever la tête. Parce qu'on l'a compris. Pourquoi? Parce que la parole le dit. La parole nous le dit. Vous êtes là? Alors, c'est quoi la clé pour être préparé pour les noces royales? Je suis certain que vous avez compris quelque chose au moins là. C'est de laisser guider par le Saint-Esprit. Savez-vous ce que la Bible dit dans Zacharie? Regardez Zacharie, chapitre 4, verset 6. Le Seigneur va dire ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est là que ça se passe. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Dans une autre version, ça dit ceci. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Imaginez-vous si tout le monde, tous les enfants de Dieu comprennent ça. Imaginez-vous comment on va pouvoir se préparer pour être une église glorieuse. Parce que la parole dit que le Seigneur vient chercher une église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On ne peut pas y arriver de nous-mêmes, nous le sommes. C'est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, par nos propres efforts, on y arrive. Mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire au travers de nous. Je vais oser ouvrir une parenthèse, je n'ai pas prévu ça, là, ok? Ok, j'ai encore quelques... Il me reste 2 heures, ok. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Quand la Bible dit que le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous dire ceci. Combien ici, vous avez déjà accepté Jésus, pour de vrai, là? Ok, pas mal tout le monde, ok. Je vais vous annoncer une affaire. Je vais y arriver, ok? Savez-vous que vous portez en vous déjà une nature qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Vous le portez en vous. Vous le portez déjà en vous. Ce n'est pas encore pleinement manifesté, on s'entend dessus, là. Mais vous le portez, la semence est déjà là. Parce que la seule façon de devenir une personne sans tache, ni ride, ni rien de semblable, la seule façon de le faire, savez-vous c'est quoi? C'est d'être effacé et créé à nouveau. On t'efface, puis on te crée à nouveau, là tu es comme une nouvelle créature. La parole de Dieu le dit, 2 Corinthiens 5.5, je ne l'ai pas dans mes notes, 2 Corinthiens 5.5. Ça dit, en Christ, nous sommes une nouvelle création. On a été créé à nouveau. Le Père a effacé l'ancienne nature avec Adam, et nous sommes une nouvelle création. Donc, nous avons déjà en nous cette nature nouvelle qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais plusieurs ne le réalisent pas. C'est là le bug. Fait que le Saint-Esprit fait son travail. Il est vraiment en train de préparer l'Église, une Église glorieuse.
parce qu'il est en nous, au travers de nous. Êtes-vous là? Alors soyez encouragés de ça. Arrêtez de regarder tout le temps à vos faiblesses, à vos manquements, vos limitations. Oh, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Oh, comprenez-vous? Non, c'est fini, ça, là, vous êtes une nouvelle création. Parce que on dit toujours que on devient ce que l'on contemple. Si tu es toujours en train de contempler tes limites, puis tes faiblesses, puis tes manquements, puis tes lacunes, ben tu vas devenir comme ça. Mais quand tu commences à contempler l'œuvre de Christ, tu commences à contempler la nouvelle nature que tu es en lui, tu es une nouvelle création, tu contemples la présence de Dieu, tu vas voir que tu deviens ce que le Seigneur a déclaré que tu es. C'est magnifique. Quand je le pratique dans ma vie, là, je capote. Il y a à quelque part, on doit changer notre regard. On est toujours en train de regarder ce qui va pas, ce qui va mal. Non. Laisse faire ça. Commence à regarder les promesses de Dieu, ce que Dieu a déclaré. Alors, ce que je vais faire en terminant, je termine bientôt, je vais voir avec vous comment quelles sont les deux étapes que Égée a utilisées pour préparer Esther. Il y avait deux étapes. Pour préparer Esther, il y avait deux étapes. Alors, on est dans le contexte où Esther a accepté de se laisser conduire par Égée. Elle ne connaissait pas Égée. Il a fallu qu'elle fasse confiance à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas pour la préparer. Et nous, des fois, on est là, on a peur de s'abandonner au Saint-Esprit parce qu'on le connaît mal, on ne le connaît pas. Mais c'est la bonne chose à faire. Faites confiance au Saint-Esprit. Esther a fait le pas. Elle ne connaissait pas Égée. Elle a mis sa confiance en lui. Il a dit, ok, vas-y, prépare-moi. Maintenant, il y a deux choses que Égée a fait pour avoir le résultat final. Et le Saint-Esprit va le faire avec toi aussi. Il y a deux choses que Égée a fait. On va le voir tout de suite dans Esther, chapitre 2, le verset 12. Ça dit ceci, au verset 12, « Les jeunes filles du harem devaient suivre pendant un an pendant un an, le traitement de beauté prescrit aux femmes, aux hommes aussi. Il y avait un traitement de beauté que Esther devait recevoir afin d'aller aux noces. Et ce n'est pas Esther qui devait le faire par elle-même, c'était prescrit par Égée, prescrit par le Saint-Esprit. Notre travail à nous, c'est de collaborer. Je vais répéter ça parce que c'est important. Notre rôle à nous, là, c'est de collaborer à ce que le Saint-Esprit veut faire. Il y a un traitement par lequel tu dois passer. Pour Esther, c'était pendant un an, pendant une année, il fallait qu'elle passe par ce traitement-là. C'est nécessaire. Et ça dit ceci, on va poursuivre le verset 12 en question. Les six premiers mois, elles étaient quoi? Elles étaient massées. Combien ici vous aimez des massages? Ah, oh, ça fait du bien. Ça enlève les tensions, tu sais. Le stress d'aujourd'hui, là. Ah, oh, ça fait du bien de recevoir. Ma femme, elle aime ça, des massages. Ma femme, là, quand je commence à lui masser le dos, là, elle est comme, ah, oh, elle aime ça. Alors, les six premiers mois, elles étaient massées, massées. Je me demande à quoi ça peut ressembler des massages du Saint-Esprit. Parce qu'on doit passer par le traitement. Est-ce qu'on va être souple, malléable pour dire, Saint-Esprit, oui, vas-y, masse-moi. Enlève toutes les quoi vous dites? Les tensions. C'est bien dit, ça. Là. Enlève toutes ces tensions-là qui sont là. Enlève ces douleurs que j'ai reçues, peut-être des coups qu'on m'a donnés par ma famille, par mes frères à l'église, des fois. Hein. Des fois, à l'église, on se donne des coups, puis c'est pas toujours le fun, tu sais. Viens enlever toutes ces tensions-là, Seigneur, viens. Masse-moi, Seigneur. Rends-moi souple et malléable. Viens enlever tout ce mauvais caractère. Des fois, je suis trop raide. Il y a des gens comme ça qui sont raides, là. Tu as besoin d'un massage du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit ceci, heureux les souples car ils ne seront pas brisés. On a besoin du massage du Saint-Esprit des fois, tu sais, pour être un peu plus docile. Combien ici vous êtes prêts à recevoir des massages du Saint-Esprit? Allez, pensez-y bien, là. Alors donc, elles étaient massées pendant 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le sort de produit que Égée utilisait pour masser Esther. C'est-à-dire des massages avec de l'huile de myrrhe. De l'huile de myrrhe, c'est quelque chose, hein, c'est très symbolique quand on parle de la myrrhe. Très symbolique ici. Masser avec de l'huile de myrrhe, et vous allez vous souvenir que l'huile de myrrhe, c'est un des produits qui a été utilisé dans la fabrication de l'onction, de l'huile d'onction. Dans l'Ancien Testament, on avait utilisé l'huile de myrrhe pour la fabrication de l'huile d'onction. C'est très symbolique. C'est avec ça qu'on devait masser l'épouse en préparation pour les noces de l'agneau. C'est magnifique ça, là. Et ça dit, les autres 6 mois qui restaient dans l'année, donc les 6 autres mois, eh bien, les femmes étaient massées avec des baumes parfumés. Des baumes parfumés et d'autres produits de beauté. Maintenant, dites-moi, quand ça fait un an qu'on te masse avec l'huile de myrrhe, puis avec des produits de beauté, des baumes parfumés, à la fin de un an, là, c'est quoi l'odeur que tu dégages? Non, mais sérieux! Qu'est-ce qu'Esther devait dégager comme odeur à la fin de un an? Est-ce que vous êtes là? C'est un traitement par lequel on doit passer. Savez-vous quoi? Moi, je cours après ça. Je cours. Saint-Esprit, masse-moi. Masse. Encore plus de l'huile de myrrhe. Puis de produits de beauté. Vas-y, Seigneur. Saint-Esprit, vas-y. Moi, je cours. Moi, je viens le déranger le matin, là. Seigneur, le massage. N'oublie pas le massage. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je soupire après ça. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Je veux mon massage de chaque jour. Seigneur, tu l'as dit que c'était pendant un an. OK, allons-y. Moi, je le veux à chaque jour. Je veux 24 heures sur 24, le massage. Alors, quelle est l'odeur que Esther devait avoir à la fin du traitement? Quelle senteur elle devait avoir? La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Corinthiens 2, verset 15. 2 Corinthiens 2, 15, ça dit ceci, c'est Paul qui parle. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu. D'où vient cette bonne odeur? On ne l'a pas achetée chez Jean Coutu. On n'est pas allé acheter ce parfum-là chez Walmart. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous avec l'odeur de la myrrhe et des produits parfumés parce qu'il sait, parce que Égée savait que ces produits-là, là, le roi, là, il aime ça. Fait qu'il a préparé Esther au goût du roi. Et le parfum que le Saint-Esprit utilise pour nous masser, c'est au goût du Père, c'est au goût de Jésus. C'est impossible que Jésus ne t'aime pas avec ça. C'est impossible. Il va tomber en amour avec toi. Alors, 2 Corinthiens 2,15, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu. Dans une autre version dans la parole de vie, ça dit ceci, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Maintenant, la suite de l'histoire avec Esther, c'est que ça dit que Esther, finalement, lorsque un an de préparation est fini, elle est venue se présenter devant le roi. Égée a tout fait à la perfection. Esther, là, a été sa coche. C'était vraiment là, sa coche, man. Fait que là, Esther est venue se présenter devant le roi. Et le texte va dire que c'est Esther, là, quand elle est venue, elle était, en plus déjà qu'elle était belle, imaginez-vous, puis elle dégageait tellement une odeur agréable. Le roi, là, le roi est tombé sur les pommes. Et la parole nous le dit au verset 17, toujours de Esther 2, au verset 17, ça dit ceci, le roi devint amoureux. Le roi devint amoureux d'Esther
plus qu'il ne l'avait jamais été d'une autre femme. Et Jéhu avait fait un méchant beau travail. Le roi devait tellement en amour, plus qu'il ne l'a jamais été d'aucune femme. Et ce fut elle, Esther, ce fut elle, parmi les jeunes filles, parmi toutes les jeunes filles, ce fut elle qui gagna la faveur et la tendresse du roi. Et j'aime la fin de ce verset-là, du verset 17, ça dit, « Et il posa la couronne royale sur la tête d'Esther et la proclama reine. » J'aimerais te dire, en terminant, il y a une couronne royale qui t'attend. Il y a une couronne royale qui t'attend. La manière que le Saint-Esprit va te préparer, la manière qu'il va te masser pendant un an, avec les parfums que tu vas avoir, quand on va venir devant le Seigneur va tellement être ravi qu'il va poser la couronne royale sur toi et tu vas régner avec lui pour l'éternité. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants. Faites amour, quelques notes de guitare. Je t'invite, en terminant ce matin, à te rappeler qu'il y a un rendez-vous galant qui est devant toi. C'est pour très, très bientôt. Là. Le temps presse, c'est pour très, très bientôt. Il y a des noces royales qui t'attendent bientôt. Et le Seigneur t'a choisi pour ça. Tu es qualifié pour ça, tu as été sélectionné pour ça. Le Seigneur a hâte à ce moment-là. Peut-être que présentement, tu passes par des temps où tu sens que le Saint-Esprit est en train de te bousculer, ça travaille fort. C'est des moments peut-être de turbulence. Des fois, ça fait mal. Le Saint-Esprit est en train de te masser. Tu le sens même physiquement des fois. Tu le sens physiquement. Il fait une œuvre. Il est en train de travailler les endroits dans ta vie qui sont un peu plus carrés. C'est trop carré, c'est trop raide. Le Saint-Esprit travaille ça pour être plus malléable, plus souple. Laisse-toi être transformé. Laisse-toi être massé par lui. Laisse le Seigneur faire son œuvre. Mais j'aimerais t'inviter, s'il te plaît, ne résiste pas au Saint-Esprit. C'est la pire chose que tu peux faire. Ne résiste pas, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. Ça ne vaut pas la peine de résister. Des fois, le Saint-Esprit va aller dans des endroits plus lointains, peut-être même dans ton enfance, des endroits où tu as été rejeté, où les gens t'ont humilié, tu as été abandonné. Il va aller dans ces endroits-là où ça fait mal. Il va venir masser. Il va venir masser. Il va venir masser. Masser ces endroits-là. Afin de enlever toutes les raideurs. Parfois, il y a des raideurs. Il vient enlever toutes les raideurs. Mais il le fait avec l'huile de myrrhe. Et inquiète-toi pas, le Saint-Esprit, c'est un expert. C'est un expert dans ces genres de choses-là. C'est un expert. Alors pendant quelques instants, je t'invite juste là où tu es à ta place, juste à ouvrir ton cœur pour dire, Saint-Esprit, rends-moi malléable, rends-moi malléable, rends-moi malléable. Et tu peux même lui dire, Seigneur, je te donne toutes mes résistances. Oui, j'ai résisté ici, à tel endroit, j'ai résisté là aussi. Là aussi, j'ai résisté. Oui, là aussi. Ici encore, j'ai résisté. Seigneur, je te donne toutes mes résistances. Et je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Et même, tu peux dire, Seigneur, je te donne la permission. Je te donne la permission d'utiliser même mon frère, ma soeur à mes côtés. Je te donne la permission d'utiliser le pasteur, l'équipe pastorale, les leaders, ma famille. Je te donne la permission de les utiliser pour me masser encore plus. Je te donne la permission d'utiliser les circonstances de la vie pour me masser encore plus. Parce que j'ai compris que c'est pour mon bien. Parce que tantôt, je vais être une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je te donne la permission de le faire. Alors, je t'invite juste à mettre la main sur ton cœur, là où tu es à ta place, là où tu es assis. Alors que tu mets la main sur ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, j'accepte, j'accepte, j'accepte. 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 J'accepte, Seigneur. J'accepte. 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 Je l'accepte. Je l'accepte.
Père, je veux prier maintenant pour une accélération dans la vie de ton enfant, une accélération de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je prie pour cette odeur de parfum, d'huile de myrrhe, cette odeur qui commence à sentir autour. Et les gens au travail vont être attirés, les gens à l'école vont être attirés. Ah, toi, tu es différent, tu sens quelque chose. Je sens que tu as quelque chose de spécial, cette odeur qui va commencer à sortir. Et ça va attirer des gens. Oh, Shakaraba. Shakaraba. Je déclare sur ta vie une saison nouvelle, une saison où tu vas voir des fruits. Les fruits vont commencer à pomper. Pom, 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 pom. Une accélération. Parce que les temps s'en viennent, je vous l'ai dit. Les noces de l'agneau sont prêtes. Je prie pour une influence dans ton environnement, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton conjoint, ta conjointe, que les changements soient évidents parce que tu commences maintenant à collaborer avec le Saint-Esprit. Et je vais prier pour toi aujourd'hui. Tu as tellement essayé par tes propres moyens. Aujourd'hui, tu es comme fatigué, tu es épuisé. Peut-être même pour certains, c'est sur le bord d'un burn-out, si ce n'est déjà le cas. Parce que tu as essayé de tes propres efforts. Ce matin, je t'invite à changer de stratégie. Je t'invite maintenant juste à t'abandonner au Saint-Esprit. De dire, Seigneur, j'arrête d'y aller par mes propres efforts. Maintenant, je te laisse faire le travail. Et la parole va dire ceci, ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Mais c'est quand on se confie en l'Éternel que ça arrive. Je te bénis aujourd'hui, toi qui es ici. Je bénis ta famille, je bénis ta santé, je bénis tes finances, je bénis tes relations dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vas prospérer parce que tu as compris aujourd'hui. Tu vas le voir, ça va être évident. Ça va être des fruits évidents. Dans l'immédiat même pour certains, vous allez le voir, vous allez le voir. Parce que vous allez marcher dans le protocole du royaume. Alors vous verrez des fruits. Ha! Shakaraba! 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 Je bénis cette église, l'église du centre évangélique de Shawinigan. Merci pour l'œuvre que tu fais ici, Père. Je bénis l'équipe pastorale, les leaders, les bénévoles, les enfants, les personnes d'âge avancé. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et tous vont participer aux noces de l'agneau. Je le déclare. Que tu fais cette œuvre dans toutes les générations ici à l'église. Et le quartier ici autour va commencer à sentir une odeur différente de cette église. Les voisins, les ressources communautaires autour, la ville de Cherbourg, la mairie, le gouvernement, ils vont commencer à sentir qu'il y a une odeur nouvelle, une odeur différente, et ça va attirer les gens. Ça va attirer les gens. Alors je prononce ta parole sur cette église au nom de Jésus.